en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Quel est l'impact des questions d'environnement, les pollutions, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique sur les migrations des populations ? Autrement dit, quel est le rapport, le lien entre migration et environnement, entre écologie et démographie, sachant que le nombre de migrants est aujourd'hui estimé à 214 millions de personnes. Tel est le sujet proposé par Jacques Véron, directeur de recherche à l'INED, Institut national d'études démographiques, lors de la communication qu'il a donnée devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, réunis en séance le lundi 5 mars 2012. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bastide-Bruguière, qui a choisi pour thème d'année « Asymétrie et force neuve du monde actuel » et qui présente, en le résumant, le parcours de Jacques Véron.
Cette fois-ci, nous allons quitter l'examen des ressources naturelles et de leur exploitation mondiale pour revenir à des problèmes qui touchent à la population mondiale. En effet, dans le temps limité d'une communication, l'exposé introductif que nous avait fait M. Léridon ne pouvait traiter que l'évolution quantitative de la population mondiale et les différentes hypothèses et interprétations auxquelles celle-ci donne lieu. Il m'a semblé nécessaire de considérer séparément un autre aspect qui peut modifier sensiblement les conséquences des données numériques brutes, à savoir les migrations, les mouvements de population. Ces mouvements de population, c'est un sujet complexe et fort sensible où interviennent des facteurs économiques, politiques, mais aussi climatiques. Et il m'a paru qu'il pouvait être abordé de façon plus pertinente après une analyse de l'état des ressources matérielles disponibles, plutôt que dans la suite immédiate des projections sur l'évolution démographique. Pour traiter des migrations, nous avons aujourd'hui un seul orateur, qui est M. Jacques Véron, mais en réalité deux communicants. Et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, il y a un an, j'avais demandé à Mme Attané de traiter de ce sujet des migrations. Mme Attané est connue pour des travaux très importants sur la démographie chinoise, la démographie du sud-est asiatique, de l'Asie, et pour beaucoup de publications savantes. Et Mme Attané m'avait proposé de donner à notre académie la primeur des résultats d'une recherche qu'elle entreprenait avec M. Jacques Véron sur les migrations climatiques. J'attire votre attention sur le fait que sur la feuille verte que nous recevons, l'intitulé de la communication est exact, c'est-à-dire qu'il s'agit des migrations et de l'environnement. Et en revanche, dans la convocation que nous avons reçue, il est question des perspectives sur les migrations, qui est une version tout à fait antérieure et ancienne, une première version du sujet. Donc, ce sont proprement les migrations climatiques que nous envisagerons aujourd'hui. Et ce sujet est un sujet très brûlant, sur lequel, d'ailleurs, en décembre 2011, l'Organisation internationale des migrations de Genève, en collaboration avec l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, ont publié un rapport qui a fait un certain bruit, intitulé « État de la migration environnementale » en 2010. Et ce rapport expliquait que, alors qu'en 2009, 15 millions seulement d'individus s'étaient déplacés pour des raisons de détérioration de l'environnement. Ce chiffre, en 2010, était de 38 millions. Monsieur Véron et Madame Attané nous donneront probablement leurs opinions sur cette question et leurs analyses personnelles. Monsieur Jacques Véron est directeur de recherche à l'INED. Il est adjoint au directeur de cette institution et directeur des relations internationales aussi. Depuis 1992, il est membre de la délégation française à la Commission de la population et du développement des Nations unies. Son champ de recherche concerne les interactions entre la population et le développement, et aussi l'histoire et l'épistémologie de la population. Il est connu pour d'importants travaux tels que « L'arithmétique de l'homme » paru en 1993, « Population et développement » 1994, « L'urbanisation du monde » paru en 2006. Mais je veux rappeler que Mme Attané a publié le mois dernier un livre fort important intitulé « Une Chine sans femmes » qui suit d'autres travaux également très en vue, « Au pays des enfants rares » paru en 2011 et « La masculinisation de la population chinoise » qui avait été publié en 2010. Dans son ouvrage sur l'urbanisation du monde de 2006, M. Véron attirait l'attention notamment sur la nécessité de trouver un modèle de développement de ville durable, et ceci en rapport avec les afflux de population, les migrations de population vers les villes. Mais je ne veux pas prendre plus de temps, et je le prie donc de nous faire son exposé. Pour les questions, il s'entendra avec Mme Attané, que j'ai placée à son côté, pour savoir lequel des deux préfère répondre aux questions posées. Monsieur Véron, nous vous écoutons et nous vous remercions d'avoir renoncé au PowerPoint, mais en même temps, vous nous privez de tableaux. Alors, nous espérons quand même que nous aurons quelques éléments chiffrés grâce à vous. Je vous en prie.
Merci, Madame le Président.
Oui, ce sera aussi une démographie peut-être de relations, pas uniquement démographie chiffrée, parce que c'est le sujet migration et environnement est un sujet qui est émergent. Et je le montrerai un petit peu. Donc, on a différentes dimensions qui font l'objet actuellement d'investigations, mais le savoir n'est pas encore complètement fixé, si je peux dire. Madame le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, donc, je vais vous parler de la relation, en fait, entre migration et environnement, sachant que la dynamique d'une population, souvent, on la considère à travers la croissance démographique, et on a beaucoup mis l'accent sur la croissance démographique mondiale du fait de l'accélération même de la croissance démographique mondiale, qui posait la question de savoir si on pouvait nourrir 7 milliards d'habitants, puis 8, puis 9, puis vraisemblablement 10 qu'il faudrait nourrir demain. Pas seulement les nourrir, mais aussi leur permettre de vivre dans des conditions décentes, et ceci sans préjudice environnemental irréversible. La question donc de la répartition spatiale a été moins abordée, si ce n'est dans les relations nord-sud, où il y a eu l'accent a fortement été mis sur les migrations nord-sud. Et au passage, je voudrais quand même rappeler que ça représente une très petite partie des migrations. L'essentiel des migrations se font à l'intérieur des continents. Il y a énormément de migrations africaines qui se font à l'intérieur du continent africain, et c'est la même chose en Asie. Et disons, le passage nord-sud est la face émergée de l'iceberg, du point de vue des migrations internationales. Mais la problématique du réchauffement climatique et son effet prévisible, en particulier sur le niveau des océans, a reposé la question de la migration, migration liée donc essentiellement aux catastrophes naturelles. Je voudrais juste rappeler quelques points pour situer cette réflexion dans une perspective quand même longue, qui est celle de la localisation des populations. Si vous regardez la carte de la population mondiale et sa répartition, elle est extrêmement inégale. Vous avez des parties de concentration de la population dans la zone Asie, Bangladesh, Pakistan, Inde, Chine, et puis vous avez la côte américaine avec les très grandes villes. Quand vous le Nigeria, vous avez des points qui sont très marqués et vous n'avez pas du tout une répartition inégale de la population. Ce qui fait d'ailleurs que parfois les gens ont l'impression que le phénomène migratoire, de migration internationale, est un espèce de phénomène de vase communicant et qu'il y a des endroits qui appellent et des endroits qui repoussent. C'est quand même nettement plus compliqué que cela. Alors, les populations se sont localisées souvent dans des endroits qui leur paraissaient plus favorables, qui pouvaient leur paraître plus favorables du fait de la fertilité des terres ou du fait de la possibilité de créer un port et donc de communiquer avec l'extérieur. Donc, les endroits où la population a été localisée initialement n'ont pas été choisis par hasard. Le phénomène d'urbanisation a évidemment fixé ces peuplements concentrer des populations, avec souvent au détriment, au passage, la détérioration de l'environnement local, de l'environnement qui justement avait conduit à l'installation des populations dans ces lieux. Et puis une urbanisation qui, en termes d'environnement, se traduit beaucoup par une consommation d'espace et d'énergie. Et c'est un point fondamental dans toute la problématique population, environnement, développement. Alors, les évolutions démographiques au cours du XXe siècle, évolutions démographiques, économiques et techniques, ont conduit à des profondes transformations de l'environnement, la déforestation par exemple, diverses formes de pollution, qui ont conduit à accroître les situations de vulnérabilité de certaines populations. Quand on considère ces questions, cette relation population-environnement, en fait, il y a deux, disons, sous-cas, si on peut dire. L'un qui est les chocs brutaux, les catastrophes naturelles, et puis les changements progressifs, donc liés aux changements climatiques aussi, mais les tendances lourdes de la désertification, de la montée du niveau des océans. Et les problématiques du point de vue migratoire sont assez différenciées. Juste pour situer l'ampleur des migrations en général, le chiffre qui court aujourd'hui sur l'ensemble des migrants internationaux, c'est-à-dire ce que les Nations Unies comptabilisent comme migrants internationaux, aujourd'hui, on serait à un peu plus de 200 millions de personnes, c'est-à-dire un peu plus de 200 millions de personnes qui vivent hors de leur pays de naissance. Donc en fait, c'est une sous-estimation des migrations internationales, puisque tous les gens qui font des mouvements mais qui peuvent revenir dans leur pays de naissance disparaissent alors qu'ils peuvent avoir fait 4 ou 5 migrations. Donc c'est au passage la différence entre migrant et migration. Un même migrant peut faire 4 ou 5 migrations. Du point de vue qui nous intéresse, alors on peut distinguer les migrations qui sont plutôt politiques, les migrations économiques et les migrations proprement environnementales, donc qui sont liées à la dégradation des conditions environnementales. Sachant que la distinction entre ces différents types de migration, à certains moments, peut paraître quelque peu arbitraire. La migration, historiquement, a toujours été un facteur d'adaptation à un environnement. Que ce soit dans les sociétés anciennes, il y a eu des analyses très bien menées autrefois, avant la Révolution française, dans des populations qui étaient fermées dans la montagne, montrant comment les deux moyens de réguler une population, c'était les possibilités de mariage. Ça se traduisait par l'intensité du célibat et l'âge au mariage et les migrations de toutes les personnes considérées par le système local comme étant en surplus. Le lien entre migration et environnement peut apparaître de manière nette dans le cas d'une crise. Et je vous rappelle au passage quand même qu'un des exemples les plus marquants de crise, c'est la crise irlandaise de la pomme de terre au XIXe siècle, qui a engendré des mouvements de population. Enfin, d'abord une forte mortalité, très forte mortalité, mais aussi une immigration de très grande ampleur qui a concerné le quart de la population et une migration qui ensuite a produit du peuplement. Donc là aussi, il faut penser, quand on pense migration, on pense souvent au départ des populations et pas forcément où elles vont, ou problème dans le cas des migrations nord-sud. Mais en fait, les migrations peuvent être des migrations réversibles, au contraire des migrations de peuplement. Et puis un troisième exemple que je voudrais juste évoquer, c'est la question, parce que ça traduisait le désir par le gouvernement de rééquilibrer spatialement la population, c'est l'exemple des transmigrations en Indonésie. Il y a eu, du temps de la colonisation néerlandaise, hollandaise en Indonésie, des programmes pour réduire la densité de la population à Java, et donc des avantages qui étaient donnés aux gens qui allaient migrer sur les autres îles, à Sumatra et autres. On leur donnait du terrain et on leur demandait de cultiver les terrains. Et ce programme, il a concerné 200 000 personnes. Donc 200 000 personnes ont répondu au programme. Et dans le même temps, la population de Java de l'époque a augmenté de 19 millions. Donc ça vous donne un peu l'idée de la possibilité de rééquilibrage de manière autoritaire, entre guillemets. Cette expérience, d'ailleurs, a été poursuivie au temps de Suharto, avec toujours l'idée, d'un côté, d'augmenter la productivité agricole avec la révolution verte, et de l'autre côté, de rééquilibrer. Parce qu'il y a toujours la tentation de dire, s'il y a des très fortes densités quelque part et des très faibles ailleurs, on peut faire quelque chose entre les deux. Mais l'histoire montre que ce n'est pas si simple. Alors, les densités de population, évidemment, sont au cœur de cette relation entre population et environnement. Et toujours avec une difficulté d'analyse, si on pense, on se souvient de ce que disait par exemple Pierre Gouroux à propos du Vietnam, constatant les très très fortes densités dans le delta du fleuve Rouge, en disant déjà on est dans une situation qui n'est pas viable. Et puis depuis ce moment-là, le taux de croissance de ces régions, de la population de ces régions a été de 1% et la densité de la population n'a cessé d'augmenter. Donc ce qu'on prédit comme étant un maximum s'avère rétrospectivement ne pas l'être. Alors, je disais tout à l'heure, la distinction entre une émigration qui serait proprement économique et une autre qui serait de nature écologique n'est pas toujours aisée à établir. Et je voudrais prendre comme exemple le cas de l'Inde et du Kerala en particulier. Le Kerala, vous savez, c'est l'État tout à fait au sud de l'Inde qui a produit beaucoup de migrants vers les pays du Golfe Persique. C'est un des États où la densité de population est la plus forte. Elle atteint 900 habitants au kilomètre carré. Et quand vous y allez, c'est vraiment, vous voyez, il n'y a pas un endroit où il n'y ait pas une habitation, quelque chose. Et donc, c'est un État qui a produit beaucoup de migrations, mais en fait, des migrations qui sont des migrations temporaires. Donc, les gens partent dans les pays du Golfe, mais ne cherchent pas du tout à s'installer. De toute façon, ils ne peuvent pas, ils ne seraient pas autorisés. Et puis, ils reviennent et en fait, ils vont construire des énormes maisons, donc accroître largement la pression démographique locale. Mais donc, la distinction n'est pas toujours aisée. Alors, un auteur qui s'appelle Esther Boserup, qui avait pris le contre-pied des théories malthusiennes en disant, finalement, la densité de population, c'est quelque chose d'important comme moteur dans la vie des sociétés. Et c'est quelque chose de moteur, puisque, en fait, les sociétés ne seront pas amenées à innover si elles n'y sont pas contraintes. Et la seule façon pour elles d'être contraintes, c'est que la pression de la population soit suffisante, parce qu'en fait, l'innovation demande un travail accru et les gens seront réticents tant qu'ils pourront ne pas le faire. Donc, elle voyait dans ces fortes pressions démographiques, finalement, un facteur de progrès, mais on voit bien aujourd'hui que la situation n'est plus du tout la même, même en Afrique, puisqu'elle travaillait dans le cas de l'Afrique. Si on regarde, par exemple, le Kenya, où des niveaux de pression démographique de l'ordre de 900 habitants au kilomètre carré, avec pour conséquence une réduction des tailles des exploitations et puis des conflits qui viennent envenimer toutes ces situations, des conflits d'acquisition des terres. Incidemment, je rappelle quand même aussi que quand on parle de migration dans la définition disons, courante, c'est un déplacement pour plus d'un an. Donc, migrant, quelqu'un qui se déplace pour plus d'un an. Mais en fait, aujourd'hui, sur notre planète, la mobilité est extrêmement forte. Les gens peuvent se déplacer pour très peu de temps. Ça ne va pas s'appeler une migration, ça s'appellera de la mobilité ou des déplacements, mais les conséquences peuvent être importantes. Et une des conséquences très importantes du point de vue de la relation avec l'environnement au sens large, c'est la diffusion des maladies qui se fait par la mobilité des populations en très large mesure. Et ça, c'était vrai autrefois de la peste, c'est vrai de la grippe espagnole qui est, semble-t-il, née en Chine et qui ensuite est partie aux États-Unis, qui est venue en France, ensuite qui a diffusé en Inde et qui est revenue en Chine au passage, à travers les liens coloniaux. C'est le cas en Haïti de la diffusion du choléra. Alors là, c'est une mobilité, c'est locale, je dirais, mais quand même qui participe de la diffusion des maladies. Et puis, c'est vrai bon, de toutes les grandes épidémies qu'on a connues, comme le SRAS et autres. Alors, pour venir plus spécifiquement maintenant sur la dimension, disons, environnement au sens changement climatique, différentes manifestations possibles du changement climatique, mais une de ces manifestations serait l'augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles. Et de ce point de vue-là, je trouve intéressant de mettre l'accent juste sur un cas particulier qui est le cas de l'ouragan Katrina aux États-Unis en 2005. Parce que un grand nombre de catastrophes naturelles se produisent dans des pays en développement avec des problématiques différentes. Et là, disons que les problématiques sont marquées par le niveau de développement des pays. Dans le cas des États-Unis, on était dans le cas d'un pays riche, donc qui pouvait a priori faire face dans de meilleures conditions à l'événement. Mais on s'aperçoit, quand on regarde plus en détail, que finalement, c'est beaucoup la population pauvre des pays riches qui a subi en premier les premiers chocs de l'ouragan. Et de ce point de vue-là, ça se manifeste en particulier par une migration différentielle des populations selon qu'elles sont blanches ou noires, selon que les gens sont riches ou pauvres. Donc c'est quand même un cas intéressant parce qu'on a l'impression, c'est quand même un exemple assez circonscrit, c'est une zone bien délimitée. On a l'impression que les gens sont un peu tous logés quand même à la même enseigne, avec une catastrophe naturelle qui était quand même conséquente. Et finalement, quand on regarde un peu dans le détail, on voit qu'il y a une mortalité différentielle et on voit qu'il y a une mobilité différentielle. Les gens sont plus partis, ceux qui étaient plus riches, avant que la catastrophe ne se produise. Les gens qui étaient les plus pauvres étaient le plus près du niveau de la mer, de l'eau, donc ils ont été touchés en premier. Et puis, les stratégies de retour de ceux qui sont partis sont aussi différentielles selon les populations. C'est d'ailleurs à ce propos qu'on a parlé d'injustice climatique, enfin pour des situations de ce genre, de dire, quand on parle dépopulation par rapport aux conséquences possibles des changements climatiques, on a des situations qui peuvent être très différenciées, même à une échelle locale relativement fine. Alors, évidemment, cette question du changement climatique, c'est une question qui est encore, qui fait l'objet de nombreux débats, ce n'est pas un scoop. Mais quand on essaie de regarder le lien qu'il peut y avoir entre la migration et l'environnement, ce qui conduit à parler de migrants environnementaux, on se rend compte que c'est quand même très difficile et que les liens ne sont pas du tout mécaniques, parce qu'en fait, les populations peuvent avoir des niveaux d'acceptation des situations qui sont très différenciés. Le mouvement tendanciel de la désertification va faire que les seuils de réaction des populations peuvent être différenciés. Donc la situation d'une catastrophe naturelle brutale, un choc perceptible qui entraîne directement une mortalité, une morbidité et indirectement une migration est différente d'un mouvement tendanciel, désertification par exemple, qui est progressif. Donc les gens vont s'adapter, ils vont se déplacer un peu localement, ils vont essayer de changer de système de culture, ils vont essayer de réagir, enfin ils peuvent essayer de réagir localement avant de partir. Quand évidemment la situation s'aggrave, comme ça a été le cas récemment dans la Corne de l'Afrique, les gens sont obligés de partir, de laisser leurs troupeaux, de laisser les quelques cultures qu'ils avaient entreprises. Et là, on parle à leur propos de réfugiés climatiques. Mais là aussi, je pense qu'il est important de regarder pas uniquement les migrants du point de vue de la situation de départ, mais aussi du point de vue de la situation d'arrivée. Ces migrants de la Corne de l'Afrique, ils sont allés au Kenya. Et le Kenya subissait aussi la sécheresse. Et les gens au Kenya n'étaient pas très, très favorables au fait d'accueillir des populations très pauvres, en grand nombre, qui ne disposaient de rien. Donc il y a des conflits non négligeables qui se sont produits du fait des déplacements de population. Les zones qui sont marquées par ces phénomènes de désertification, c'est beaucoup l'Afrique. Une étude qui a été faite récemment par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est paru en 2011, a analysé la situation des évolutions au Sahel, donc dans 9 pays, la Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger et Cap-Vert. Et on s'est aperçu qu'en moyenne, sur, ça devait être au cours des 10 dernières années, il y avait une augmentation de l'ordre de 1% de la température dans la région. Mais dans certains cas, ça allait jusqu'à 1,5%. En fait, avec des fluctuations, des situations très différentes d'un pays à l'autre. Mais donc des phénomènes qui sont quand même, qui mettent les populations en situation de grande vulnérabilité. Il suffit ensuite qu'une sécheresse particulière vienne se surajouter pour que les populations ne disposent de plus aucune marge de manœuvre. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2009, par exemple, et au sud du Bénin en 2010, où des centaines de milliers de personnes ont dû quitter le pays du fait de cette sécheresse. Dans le cas du Sahel, il y a aussi le phénomène de niveau de la mer, des habitants, une population importante qui est située sur les zones côtières. Et on considère que si le niveau de la mer augmentait d'un mètre, alors il y a différents scénarios sur le niveau d'augmentation de la mer, il n'y a pas un accord absolu sur les perspectives, mais dans ce cas-là, augmentation d'un mètre, 3 millions de personnes seraient concernées. Et des très grandes villes seraient touchées, comme Lagos, avec plus de 10 millions d'habitants, Abidjan, avec 4 millions d'habitants, Dakar, Accra, Conakry, Lomé, beaucoup de villes qui sont sur la côte africaine. Il est important, semble-t-il aussi, de garder à l'esprit le fait qu'une migration, quand on fait des distinctions entre différents types de migration, on a l'air de considérer que ce sont des catégories étanches. Je voudrais prendre un exemple de la migration en provenance de Côte d'Ivoire à la fin des années 90, début des années 2000. Donc avec le rejet de la population, enfin le rejet des migrants burkinabés en Côte d'Ivoire, beaucoup de migrants du Burkina Faso sont rentrés dans leur pays, donc c'était des migrations de retour, c'était des gens qui étaient partis s'installer pour travailler en Côte d'Ivoire et qui ont été obligés de rentrer chez eux. Mais en fait, ils ne sont pas rentrés chez eux, ils sont rentrés dans la zone côtière au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a eu là des problèmes d'accès à la terre considérables liés au fait que les migrants de retour venaient s'installer et prétendaient avoir de la terre. Et donc tout le système de droit de propriété et de droit d'usage des terres était remis en cause par des migrants qui formellement étaient des migrants de retour burkinabés, donc qui étaient légitimes dans leur pays, mais simplement qui s'installaient, qui ne revenaient pas dans leur lieu d'origine, qui venaient dans une zone tampon pour éventuellement repartir en Côte d'Ivoire si les situations s'amélioraient. Donc cet exemple montre qu'une migration qui est politique, au départ elle est politique, puisque ce sont des événements politiques qui ont généré le retour, mais à l'arrivée, elle a des conséquences environnementales majeures de dégradation des terres, de partage et aussi de conflits politiques. Alors, les effets attendus du changement climatique sur les mouvements de la population, en fait, on considère qu'ils peuvent être de quatre ordres. D'une part, l'intensification des catastrophes naturelles. D'autre part, la dégradation des conditions d'existence des populations, avec le développement de maladies liées à la transformation des écosystèmes, des aléas climatiques menaçant la sécurité alimentaire, les diminutions des ressources en eau. En troisième lieu, l'élévation du niveau des mers. Et enfin, l'accroissement de la compétition pour des ressources plus rares, qui sont des facteurs de tension et de conflit entre les populations. Des informations qui sont contenues dans des bases de données mondiales sur les catastrophes naturelles, qui s'appellent EMDAT, font état d'un accroissement des catastrophes enregistrées depuis 30 ans et une augmentation du nombre de personnes affectées avec une moyenne annuelle de plus de 250 millions de personnes sur la période 1994-2003. Donc, ils sont affectés. Évidemment, affectés, c'est à des titres divers, ça va de la situation la plus dramatique de mortalité, à des morbidités et à des migrations. Incidemment aussi, je rappelle que les phénomènes de réchauffement climatique, donc je disais tout à l'heure, je parlais de maladies, phénomènes de réchauffement climatique modifient aussi la géographie de certaines maladies, en particulier du paludisme, avec des zones qui deviennent plus chaudes, plus favorables à l'anophèle, donc permettent de survivre beaucoup mieux. Donc il y a toute une géographie aussi des maladies qui va évoluer, sans qu'on sache exactement comment, puisque ça dépend aussi de l'attitude des populations. Par exemple, une déforestation dans certains pays est favorable à l'expansion du paludisme et dans d'autres ne l'est pas parce que selon que les moustiques qui sont présents aiment le soleil ou aiment l'ombre, on va favoriser leur croissance, leur accroissement, ou au contraire jouer en sens inverse. Mais un des pays qui est évidemment le plus exposé, le plus dramatiquement exposé au changement climatique et aux conséquences du changement climatique à travers l'élévation du niveau de l'océan, c'est évidemment le Bangladesh. Alors, le Bangladesh cumule différents facteurs, parce que ce n'est pas lié uniquement au changement climatique. Le Bangladesh a subi beaucoup d'inondations liées à la déforestation au Népal, qui a eu pour conséquence de déréguler le Brahmapoutre en particulier. Et donc, déjà, la situation était déjà très favorable, sachant qu'au Bangladesh, il y a une très large partie de la population qui vit non seulement en situation de grande pauvreté, mais à un niveau très proche du niveau de la mer. Et on estime qu'il y a à peu près 50 millions de personnes qui sont concernées plus ou moins par cette élévation prévisible du niveau de la mer. Et le gouvernement du Bangladesh a bien intégré ces questions. Il y a déjà des migrations qui se produisent à l'intérieur du pays, et notamment une urbanisation qui s'est intensifiée vers Dhaka du fait de ces catastrophes naturelles. Donc il apparaît bien que les risques à venir sont majeurs. Et de manière un peu étonnante, justement c'était un rapport de l'OIM dont vous avez parlé, mais de l'OIM au Bangladesh, l'idée commence à apparaître que la migration peut être un instrument de régulation face aux événements climatiques. Alors l'idée donc c'est de dire, c'est pas seulement, étant donné qu'on est dans un univers d'incertitude, la migration peut être un moyen de réagir à des situations, mais finalement avec des gens qui peuvent revenir et s'adapter. Sachant aussi qu'au Bangladesh, beaucoup de terres sont submergées, mais d'autres terres émergent du fait des pots d'alluvion. Donc il y a aussi une géographie très très locale qui évolue fortement en liaison avec ces changements. Donc aujourd'hui, quand on réfléchit à ce que peuvent être les conséquences du changement climatique sur les migrations, il est important de bien garder à l'esprit l'idée que la migration, elle peut être une migration définitive vers une autre zone et à ce moment-là poser un certain nombre de problèmes, ou au contraire une migration, une mobilité très locale, temporaire, comme ça s'est passé au Pakistan. Il y a eu des très fortes inondations au Pakistan, tous les gens sont partis, puis après ils essayaient de revenir. Il y a beaucoup de dégâts enregistrés, mais disons, du point de vue de la migration, les gens reviennent. Un travail qui a été mené, centré sur les populations urbaines, et qui concernait différents continents, tenter de chiffrer l'effet possible des changements climatiques sur la population urbaine sur différents continents, en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Et dans le cas de l'Asie, par exemple, il apparaissait, l'étude avait été menée en distinguant différentes tailles de villes, donc avec des degrés de vulnérabilité différents, et en distinguant des zones arides et des zones côtières de très basse altitude. Il apparaissait qu'en Asie, plus de 30% de la population de toutes les villes était soumise à risque, disons, à risque d'événements climatiques majeurs, donc à risque d'être contrainte de bouger. Et pour ce qui était des zones côtières de très basse altitude, dans les villes de plus d'un million d'habitants, près du quart de la population était concernée. Alors concernée, ça veut dire être en situation de vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que les choses se produisent, ça ne veut pas dire que les gens vont partir, ça veut dire qu'ils sont soumis au risque d'eux. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller tellement plus loin que cet élément de dire on est soumis au risque d'eux. Incidemment, avant de terminer, je voudrais juste rappeler aussi, toujours dans l'idée que la mobilité, c'est quelque chose qui est à considérer à différentes échelles. Je voudrais juste rappeler les effets du tourisme sur l'environnement local et mondial, qui sont loin d'être négligeables. Vous savez qu'on protège le patrimoine. Il y a une liste du patrimoine mondial qui est définie par l'UNESCO. Et en 2012, 936 biens sont classés par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine mondial, avec un objectif clairement affiché de protéger des lieux sensibles et des lieux particuliers, et avec comme conséquence indirecte des afflux de touristes dans des zones fragiles. Et donc toute une infrastructure qui se développe autour, toute une compétition qui se fait à propos de l'eau notamment avec les producteurs et les populations locales. Et donc on voit là, je cite au passage parce que ça me semble intéressant en termes, disons, d'effets pervers, impossible à enrayer d'une mesure de protection qui est que finalement on accroît la pression et c'est quand même une forme de pression démographique. C'est pour ça que je reviens, quand on parle de migration, je disais c'est une migration, c'est plus d'un an, mais s'il y a des afflux de touristes dans un lieu donné comme ça peut être à Angkor par exemple, il y a finalement une population, la somme des gens qui partent et qui rentrent, c'est l'équivalent d'une population. Et donc ça fait une pression même si chaque personne ne reste que 3 jours ou 5 jours. Et donc, je pense que quand on aborde les questions, disons, environnement, migration, il faut vraiment garder à l'esprit ces dimensions de mobilité qui sont à des échelles différentes, mais qui, toutes à leurs échelles, peuvent avoir des conséquences non négligeables. Donc, en conclusion, je dirais que différents travaux ont été menés dans les dernières décennies pour identifier les zones qui devraient avoir le plus à souffrir du changement climatique sous la forme de sécheresse ou de terres submergées. Il reste de fortes incertitudes sur l'ampleur des modifications futures. Évidemment, de l'importance de l'élévation du niveau de la mer, par exemple, dépend le nombre d'individus en situation de risque. On l'a vu sur le tsunami de 2004, les gens qui vivaient pratiquement sur les plages, ils ont été touchés en premier, il y avait zéro marge de manœuvre. Ceux qui vivaient à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, déjà, subissaient pas les choses exactement de la même façon. Donc, les incertitudes sur les évolutions futures du niveau de la mer ont des incidences potentielles énormes sur les mouvements migratoires. En deuxième lieu, selon que les changements environnementaux prennent la forme d'événements extrêmes ou de transformations continuelles, le lien entre migration et environnement est différent. Mais quelles que soient les certitudes actuelles, la poursuite de la croissance démographique mondiale aujourd'hui fait qu'il y aura de toute façon de plus en plus de gens exposés au risque d'événements climatiques majeurs. Mais d'autre part, le lien entre migration et environnement n'est en rien mécanique. Pas plus qu'il l'est d'ailleurs dans les relations nord-sud, quand on nous dit que ce n'est pas les pays qui ont le plus d'habitants qui en envoient le plus. C'est les pays qui ont des liens historiques, c'est les pays qui ont développé des réseaux par rapport à des pays d'accueil. Ce n'est pas nécessairement ceux qui ont le potentiel migratoire le plus élevé. Donc ce lien entre migration et environnement n'est pas mécanique. Il peut très bien y avoir aggravation de la pauvreté sans migration. Par ailleurs, cette relation entre migration et environnement interfère avec beaucoup d'autres relations, en particulier la sécurité alimentaire et l'urbanisation. Et je n'ai pas insisté sur l'urbanisation parce que c'est quand même un peu un phénomène en soi à analyser, mais évidemment, l'urbanisation médiatise beaucoup toutes les relations qu'on peut avoir en termes de population et développement, avec souvent des côtés ambigus, parce que finalement l'urbanisation c'est en même temps un étalement urbain, des espaces qui sont consacrés aux villes, mais en même temps c'est une concentration des populations qui évite aux populations d'être disséminées. Et le dernier point, donc, c'est que la migration commence par certains à être considérée comme une variable d'ajustement qui permettrait de s'adapter à la modification de l'environnement en univers incertain. Finalement, comme on ne sait pas où les choses vont se produire, parce qu'une catastrophe naturelle, on sait qu'il y a des zones à risque, mais quand on regarde la carte, il y a une carte qui a été faite à l'échelle mondiale des points chauds, ben, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ne sont pas des points chauds à un égard ou à un... Alors, je ne voudrais pas finir sur cette conclusion un peu terrible. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui qu'en fait, la situation ne peut s'analyser qu'en termes de possibilités de réaction. D'ailleurs, tous les développements récents et les travaux sur la façon de lier démographie et écologie insistent beaucoup sur la façon dont on peut gérer les situations, pas la façon dont les situations surviennent, parce qu'elles surviendront ou elles ne surviendront pas. On peut essayer évidemment de lutter contre les effets du réchauffement climatique en prenant avec le protocole de Kyoto ou des choses comme ça. Mais on a aussi des situations qui risquent de se produire. Il faut être capable de les gérer au mieux. Et l'idée se développe que la migration est un des moyens de gérer des événements, des catastrophes naturelles dont on ne sait pas où elles risquent de se produire, mais on sait qu'elles se produiront. Donc, en moyenne, il y en aura un certain nombre, mais on ne sait pas où elles se produiront. Ce qui est d'ailleurs le propre un peu de toutes ces catastrophes. Voilà, je vous remercie.
Le texte de la communication de Jacques Véron est disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Dans cette même série de communication de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bassit-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel », vous pouvez aussi écouter une communication d'Henri Léridon, démographe, correspondant de l'Académie des sciences, sur les perspectives de la population mondiale, Didier Julienne sur les métaux et terres rares, Pierre Gadonnex sur les ressources mondiales en énergie, François Bersani sur l'avenir du secteur minier traditionnel.